Je suis à l'heure actuelle avec ma casquette de traductrice pigiste. Je me suis lancée dans la traduction il y a 20 ans. Et la raison pour laquelle je me suis lancée dans la traduction, c'est qu'avant ça, j'ai travaillé en international dans pas mal d'endroits au monde et j'étais toujours en train de fonctionner entre le français et l'anglais parce que j'avais la chance de bien parler anglais relativement de bonne heure. Et que donc, j'ai souvent dû m'improviser, soit traductrice, soit interprète.
D'accord.
Et que finalement, en déménageant vers le Canada, non pas au départ de la France, mais venant des États-Unis, j'ai fini par en faire une profession parce qu'au Canada, c'est une profession reconnue, parce qu'il y a la nécessité de faire beaucoup de traductions du fait que le gouvernement fédéral et tout ce qui est texte émanant du gouvernement fédéral doivent être dans les deux langues. Que le Québec, oui, c'est la seule province de langue française, mais qu'il faut aussi servir les anglophones du Québec. Et que, de façon générale, les sièges des grandes sociétés canadiennes tendent à être à Toronto. Mmh. Et que s'ils veulent servir leur clientèle francophone, il faut que leur site web maintenant, mais leur texte avant, leur brochure soit aussi en français. Et qu'il n'y a pas qu'au Québec qu'on est en français, donc il y a 1 million de francophones répartis dans le restant du Canada qu'il ne faut pas oublier.
D'accord. Donc, traducteur là-bas, c'est un bon plan, mais revers de la médaille, il doit y avoir beaucoup de concurrence.
Il y a énormément de concurrence parce que il y a, rien qu'au Québec, il y a 4 universités qui ont des programmes en bonne et due forme de formation à la traduction. Il y a un seul programme d'interprétariat qui est à l'Université d'Ottawa. Il y a d'autres universités en dehors du Québec qui enseignent la traduction. Et il y a aussi de plus en plus plein de possibilités de cours en ligne et également des programmes du soir, des certificats qui sont en cours du soir pour des gens qui travaillent dans la journée, qui veulent se former. C'est d'ailleurs comme ça que moi, je me suis formée à l'Université McGill à Montréal. Parce que j'avais déjà trop de diplômes ayant un MBA pour aller refaire un diplôme de niveau licence si j'essaie de me replacer dans le contexte français, donc de commencer vraiment par le B.A.B.A. du début de la traduction. Et par contre, on ne voulait pas que j'aille faire une maîtrise, enfin un master, qu'on vous appelait maintenant les masters en France, faut que je fasse attention. Parce que j'avais pas de diplôme en traduction en bonne et due forme, donc je tombais un peu entre les mailles partout là. Donc je suis allée faire un certificat en traduction en cours du soir à l'université McGill.
D'accord. Donc aujourd'hui, donc tu es freelance. Est-ce que c'est le terme qu'on emploie au Québec pour désigner les travailleurs indépendants?
Nous, on tape sur les infâmes français qui utilisent plein d'anglais. on prend le terme pigiste. Donc on a des mandats à la pige, donc si je veux vraiment pousser le bouchon, j'effectue des mandats à la pige quand on m'envoie une traduction à faire.
D'accord, donc là-bas, tous les travailleurs indépendants, ce sont des pigistes. Enfin, tout au moins des traducteurs, mais ça concerne également les autres indépendants, les graphistes, les développeurs, ou est-ce qu'on les a...
Tout ce qui évolue, je dirais, dans le domaine de la communication, parce que même dans les offres d'emploi pour des contrats à court terme, on voit rédacteur pigiste demandé. C'est la même chose pour les gens qui sont graphistes, qui font de la conception de sites web. Et j'ai délibérément évité d'utiliser le mot « design ». Donc, les concepteurs de sites web, tout ça sont des gens qui travaillent en pigiste.
D'accord. Alors, comment ça se passe un petit peu la vie de pigiste au Québec? Est-ce que déjà les entreprises ont l'habitude de faire appel à des pigistes? Est-ce que c'est une pratique répandue? Comment c'est un petit peu au quotidien chez toi?
Oui, parce que faut voir l'environnement du travail de façon générale. Je dirais pas qu'au Québec c'est comme le restant de l'Amérique du Nord. Et là, je vais devoir faire une traduction libre. On engage et on licencie à volonté, parce que ça, c'est le libéralisme pur et dur, mais au Québec, on est un peu entre les deux. Donc, il est tout à fait normal et dans les mœurs d'engager quelqu'un pour 6 mois. Mmh. à qui on va soit offrir un contrat en tant que salarié pendant 6 mois ou qu'on va prendre à l'interne et qui va facturer son temps sur la base d'une facturation, donc de notes d'honoraires, comme on dit en France, pendant 6 mois et qui, une fois son mandat terminé, ben, va retourner chez lui.
D'accord.
Il n'y a pas de prise de tête avec des histoires de CDD ou des trucs comme ça. Tout ça, c'est des acronymes qu'il faut que j'apprenne ici et qui me paraissent très, très, très compliqués.
Oui, justement, parce qu'ici, par exemple, tu peux être auto-entrepreneur, travailleur indépendant, être à la maison des artistes, être profession libérale, créer ta petite société, ta micro-entreprise. Ben, y a une foultitude de statuts ici, de ce côté-là de l'Atlantique. Et chez toi, comment c'est justement
Bon, la notion de statut, on s'en...
Oui, on est d'accord.
D'accord. Moi, pour m'installer en tant que traductrice pigiste, bah, ça m'a pris un numéro d'entreprise simplement parce que j'ai décidé de faire affaire sous un nom d'entreprise parce que quelque part, ça fait un peu plus sérieux que de travailler sous le nom de Daniel Hennen Traduction. Aussi parce que bon, si de temps en temps j'ai des collaborateurs, ben, j'ai pas à expliquer des tas de choses, j'ai un nom d'entreprise. Donc j'ai un numéro d'entreprise au niveau du Québec puisque c'est provincial, j'ai deux numéros de taxes puisque nous avons deux taxes de vente, donc c'est comme s'il y avait une TVA au niveau national puis une TVA au niveau local. Donc j'ai deux taxes de vente. J'avais pas l'obligation de le faire parce que si on n'atteint pas un certain chiffre d'affaires, on peut se dispenser des taxes en question. Mais bon, comme moi j'ai une formation de gestion au départ, j'ai tout de suite compris que le jour où je m'installais, j'allais acheter plein de choses, ordinateurs, chaises, dictionnaires, etc. Articles sur lesquels j'allais payer des taxes et que si j'avais mon numéro de taxe, bah, j'allais évidemment récupérer ces taxes et les déduire de ce que moi j'allais facturer comme taxe à mon client.
D'accord.
Et donc, je travaille comme ça, ad vitam aeternam. Il n'y a pas une durée limitée pendant laquelle je peux avoir ce statut-là, puis après devoir passer à autre chose. Et d'un point de vue comptable, si je n'ai pas un minimum de 100 000 dollars de chiffre d'affaires par an, ça ne vaut pas la peine que je passe à une structure de société par action avec un seul actionnaire. Okay. C'est-à-dire, ça ne vaut pas la peine que j'ai deux déclarations de revenus, une qui soit strictement entreprise et une autre qui soit à titre personnel, parce qu'à ce moment-là, je me verserai, entre guillemets, un salaire.
D'accord, bon.
C'est donc assez... moi, j'ai une déclaration de revenus, et si dans l'année, comme ça m'est arrivé à plusieurs reprises, je vais faire 5 mois sur place chez quelqu'un, remplacer une personne qui est en congé à maternité ou qui a eu un accident, parce que les deux scénarios me sont arrivés, ou si on me demande, parce qu'il y a un coup de bourre, de venir travailler quelques mois, mais où je pose des factures, ça pose aucun problème. Ça rentre dans la même déclaration de revenus et le même décompte de charges sociales à la fin de l'année.
D'accord. Donc, c'est assez simple. Hein. De la constitution jusqu'à la gestion et après le paiement de tout ce qui est taxes et compagnie, c'est relativement simple.
Absolument. Moi, ma comptabilité, elle tient sur quelques feuilles Excel. Et puis, avec quelques petites macros qui, à mesure, bah, me disent combien j'ai gagné dans l'année et puis combien j'ai dépensé. Et puis, je fais faire ma déclaration de revenus par une comptable parce qu'il y a toujours chaque année des avantages ou des désavantages qui apparaissent, qui disparaissent. Et ça, c'est sûr que je n'ai pas le temps de le suivre, alors que ma comptable le sait. Mais je n'ai pas besoin d'une comptable pour faire ma comptabilité en tant que telle.
D'accord. Alors sinon, pour parler un petit peu, est-ce que vous, les pigistes, traducteurs et peut-être autres, hein, est-ce qu'il y a un sentiment de groupe? Est-ce que vous vous rencontrez? Est-ce que vous travaillez en réseau? Comment ça s'organise un petit peu
les frais? Alors, merci Internet, oui, parce que c'est sûr que, bon, même avant Internet, moi, je faisais partie d'un certain nombre de listes de distribution. Il y avait, bon, là, je parle toujours pour le milieu de la traduction, il y avait un truc sur CompuServe, le bon vieux CompuServe, je ne sais pas qui se souvient encore de CompuServe.
Moi, je m'en souviens très bien, parce que c'est moi qui faisais le magazine des abonnés.
Ah, bon, bah alors, il y avait un truc qui s'appelait FLEFO, donc c'était Foreign Language Education Forum. Donc là, on avait tout un tas de traducteurs du monde entier qui étaient là-dessus. Et puis, bon, maintenant, avec le développement d'Internet, on a des listes beaucoup plus spécialisées, mais ça multiplie un peu les listes. Donc moi, je fais partie de plusieurs listes parce que je fais partie de plusieurs associations de traducteurs. Parce que l'avantage, c'est une façon de trouver du travail. Comme on est sur le répertoire électronique et donc accessible au grand public de ces associations, on est trouvé plus facilement par les clients potentiels. Mais par ailleurs, bon, on fait des rencontres locales, par exemple un repas par mois à Montréal, une soirée quelconque, des sessions de formation, parce qu'il y a quand même des obligations de formation continue si on veut être un peu sérieux dans sa profession. D'ailleurs, certaines associations l'imposent pour garder son adhésion et son statut à l'association en question. On est obligé d'avoir de la formation continue. Et puis, bon, sinon, rien n'empêche de faire des rencontres informelles si on décide de se rencontrer à plusieurs. Et au Québec, on a entre autres une association qui regroupe non seulement les traducteurs, mais tout ce qui grenouille autour de ça. Donc, on a aussi bien les rédacteurs, les concepteurs du site web, les réviseurs. Parce qu'il y a par ailleurs une société québécoise des réviseurs, une société québécoise des rédacteurs. Et c'est des toutes petites associations, puisqu'on n'a pas la même population qu'en France. Et donc, c'est bien que finalement, on ait un cercle commun où tout ce monde-là se rencontre. Et on va aussi aux sessions de formation des uns et des autres réciproquement.
D'accord. Donc, il y a une vraie culture du réseau. Hein. Il y a une vraie culture du partage, de la rencontre et... Et oui, c'est intéressant ça, parce qu'en France, c'est pas tout à fait comme ça.
Il y a des réseaux strictement pour pigistes. Bon, il y avait un truc qui s'appelait agent solo, qui permettait d'afficher des offres de travail. Je sais pas ce que ça a donné. Et LinkedIn est aussi énormément utilisé, d'autant plus que LinkedIn Québec très 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 actif, et ça c'est des gens absolument de tout bord, de tout poil, salariés, pas salariés, consultants, pigistes, tout ce qu'on veut. On manque quand même de bons traducteurs, et en fait il y a des cabinets de traduction qui sont allés recruter en Europe, parce que là je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est pas grave, il y a un gros problème de la connaissance du français écrit au Québec. Au niveau scolaire, c'est assez lamentable. Et donc, il y a de gros échecs au niveau des tests de placement pour s'inscrire à un programme de traduction. Et il y a donc des cabinets de traduction qui sont allés recruter en Europe. D'ailleurs, j'ai reçu chez moi à Montréal au début de cette année une jeune femme qui avait terminé un Master 2 à Rennes. Qui avait trouvé un stage et qui maintenant est installé à Montréal.
Ça prouve aussi qu'il y a une possibilité pour des traducteurs francophones, enfin français d'ici, de pouvoir aller travailler là-bas.
Absolument.
Parce qu'il y a apparemment, il y a des besoins.
Oui, il y a des besoins. Maintenant, c'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a une période de contraction économique, c'est les services de traduction qui sautent, parce qu'au Canada... La plupart des grandes entreprises ont un service de traduction à l'interne, ce qui est peut-être un peu une situation exceptionnelle par rapport au restant du monde. Et bah, ces services sont toujours jugés non productifs et c'est eux qui sautent les premiers. Donc, il y a souvent des traducteurs qui n'ont jamais eu à se soucier de trouver du travail parce qu'ils ont été littéralement embauchés à la sortie de leurs études. Et qui d'un seul coup doivent se transformer en pigistes. Alors là, ils ont du mal parce qu'ils n'ont pas les connaissances nécessaires pour s'installer. Et souvent, ils pensent que c'est très compliqué, alors que ça ne l'est pas du tout. Je veux bien, s'il y a du monde qui est intéressé à me contacter, je veux bien que mon adresse courriel apparaisse quelque part, ça ne me dérange pas.
D'accord, je mettrai également le lien vers ton profil LinkedIn, comme ça les gens pourront directement rentrer en contact avec toi.
Alors par contre, je n'ai pas de blog et je n'ai pas de site internet parce que il y en a déjà tellement que je me dis qu'est-ce que je pourrais raconter mieux que les autres.
Oh, bah, si on avait quelques minutes, je t'expliquerais que tu pourrais raconter plein de choses intéressantes. Ne serait-ce que tout ce que tu viens de nous raconter, c'est très très intéressant. Mais bon, ça serait l'objet d'une autre émission.
Bon, alors d'accord, ok. Donc on fera ça de manière séparée. Je vais bien me débrouiller pour arriver à passer sur Paris. Comme je suis en France jusqu'à fin mars, je vais bien réussir à me débrouiller à passer sur Paris.
Oui, bah, il y aura le prochain Café des Freelances va bientôt avoir lieu en février. Donc je pense que... Il y a pas mal de traducteurs et de traductrices qui viennent, donc ça sera l'occasion aussi pour toi de voir quelques collègues quelques confrères.
Pour vous, vous pourriez regarder la section Île-de-France de la Société française des traducteurs à tous les mois, les matinales de l'Île-de-France, où c'est dans un café à Paris près du Pont-Neuf. Je crois d'ailleurs que c'est le café du Pont-Neuf. C'est gratuit, il suffit de payer son petit déjeuner sur place parce que c'est le samedi matin. Et il y a eu des gens, par exemple, comme Pierre Assouline et des choses de ce genre. Donc là, vous pouvez rencontrer plein de monde. Donc allez sur le site de la SFT, il y a quand même un certain nombre d'informations qui sont publiques. Et regardez matinale IDF, c'est-à-dire Île-de-France.
Bon, bah parfait, message est passé, ça fait une petite info supplémentaire.
Voilà.
Merci Daniel, et puis bah, à très bientôt alors.
Merci, bye.